cette dernière semaine de programme de la saison 2015-2016 de la Fabrique de l'Histoire, nous vous proposons de réfléchir au Front populaire, à son histoire et à sa mémoire. Après vous avoir parlé hier du Parti communiste dans ce Front populaire, mais aussi des femmes du Front populaire, et avant demain de nous promener dans une exposition qui nous raconte comment le Front populaire a produit des images ou a été représenté par des images, aujourd'hui, Séverine Yatar et Séverine Cassard, dans le documentaire du mardi, vous proposent de réfléchir à la façon dont les socialistes ont raconté l'histoire du Front populaire depuis 80 ans maintenant, avec des archives, mais également des analyses de Frédéric Sépède, Pascal Horry et Jean-Pierre Rioux, trois historiens qui réfléchissent à cette longue histoire et à cette mémoire du Front populaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire de ce matin, un documentaire de Séverine Yatar et de Séverine Cassard.
Notre victoire d'avril et de mai dernier ne doit conduire qu'à des victoires nouvelles.
Léon Blum, 14 juillet 1936.
La cause des travailleurs, luttant pour la justice sociale. La cause des républicains, luttant pour les libertés civiles et publiques, doivent être indissolublement liées. C'est le peuple des travailleurs qui a fondé trois fois la République. En 1792, en 1848...
Le Front populaire a toujours un peu mal à la mémoire, et non pas à l'histoire, mais à la mémoire, parce que au fond, qui dit commémoration, dit quand même appel un peu euphorique à l'unité, à la mise en branle d'un sentiment collectif qui reconnaît, je dirais, l'avancée historique telle que l'événement a pu la produire. On n'a jamais, finalement, su très bien ce qu'il était le plus utile de commémorer ou de célébrer à travers le Front populaire. Il y a un côté devoir convenu au nom de l'unité et de la gauche et de la nation qui fait que on se contente de dire, écoutez, c'est un grand moment de la Sainte Union de la gauche, très bien.
Les congés payés.
C'est l'immense, exactement, c'est le grand moment des acquis sociaux, enfin, etc. Et ça, je ne dis pas que c'est faux. C'est le grand moment de l'impeccable exercice socialiste du pouvoir, pour la première fois. Bon. C'est le grand moment de, je dirais, la génuflexion des masses devant le bulletin de vote. L'antifascisme. Salvateur. On est même allé jusqu'à dire qu'au fond, on allait, à travers l'action de la France et celle de l'Europe, on allait enfin vers un jour vers la paix universelle et perpétuelle, quels que soient les aléas de la guerre, quelles que soient les formes nouvelles du conflit, etc. etc. Donc moi, je répète, commémoration qui restait hors sol.
Une commémoration, elle vaut pour ce qu'elle nous dit pour le présent. La plupart du temps, l'histoire est la perdante dans les commémorations, puisqu'on a tendance, surtout dans les partis politiques, à réactiver ce qui est utile au moment où l'événement est à commémorer.
En fait, ça nous dit toujours le présent, les commémorations.
Bien évidemment, que ça soit Verdun ou que ça soit le Front populaire, ça nous parle d'aujourd'hui.
Les fronts populaires des socialistes.
Chaque anniversaire en 6, à partir, je dirais, de 1976, clairement, est l'occasion pour une gauche qui est souvent divisée de communier, sans le vouloir d'ailleurs, dans ce souvenir-là. Parce que les héritiers des communistes, le Front de gauche, etc., les héritiers des socialistes, et même, je dirais, les héritiers des radicaux, maintenant la personnalité de Jean Zay, et à juste titre, est mise sur le pavois, et c'est très bien. En ce moment même, en 2016, vous avez les différentes familles éventuellement fracturées de la gauche qui célèbrent, qui parfois se retrouvent quand même ensemble, dans tous les cas, en simultané, célèbrent. Donc c'est ça la fonction du mythe.
En juillet 1934, les gauches signent un pacte d'unité d'action en faveur d'un front populaire pour le pain, la paix et la liberté, en réaction à la crise du 6 février. L'année suivante, tous se retrouvent alors à la Bastille pour commémorer et défendre la République. Le Rassemblement populaire est alors adopté par la SFIO, le Parti communiste, les radicaux, mais aussi les confédérations syndicales et des mouvements antifascistes. Au printemps 1936, la gauche remporte les élections. À peine arrivé au pouvoir, le gouvernement de Léon Blum est confronté à un mouvement de grève sans précédent, qui accélère alors la signature de grandes réformes sociales, comme la semaine de 40 heures, les congés payés ou la généralisation des conventions collectives. Ces accords s'accompagnent d'une ambitieuse politique culturelle et d'éducation populaire, censée donner à chacun un accès au temps libre et au bonheur partagé. Le Front populaire constitue ainsi un des moments fondateurs de l'histoire contemporaine française. Événement mythique, inscrit au panthéon des gauches, et en particulier de la gauche socialiste, sa mémoire vive, transmise au gré des années par des héritiers souvent divisés, mobilise des images fragmentées, parfois consensuelles ou concurrentes.
Le peuple de Paris salue ses frères de province. Et nous allons entendre maintenant les responsables du Rassemblement populaire. La parole est au professeur Victor Bache, président de la Ligue des droits de l'homme, au nom du Rassemblement populaire.
14 juillet 1936.
Monsieur le président du Conseil, mes chers camarades, citoyennes, citoyens, 14 juillet 1935, la levée en marche du pays républicain, dressée d'un irrésistible élan pour défendre les conquêtes de la démocratie contre la tourbe des factieux et pour abolir les bastilles qu'avaient laissées vous les révolutions de 89, de 93, de 1830, de 48, de 71. Le serment solennel prêté par tous les partis et toutes les organisations de gauche de rester unis jusqu'à ce que ce soit cristallisé dans les faits les mots d'ordre du rassemblement, la sauvegarde de la liberté, le pain assuré à tous, la carrière ouverte à la jeunesse, la garantie de la grande paix humaine.
Comme tout bon mouvement de gauche, le Front populaire est très historiciste, ce qui peut paraître paradoxal à ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la gauche.
Pascal Horry, historien, spécialiste d'histoire culturelle.
Et les références alors à une histoire proche, Jean Jaurès assassiné en 1914, c'est tout proche. La référence à la Commune de Paris, la référence au combat républicain du 19e siècle, la référence à la Révolution française est extrêmement forte. Elle est forte évidemment chez tous ceux qui sont proches du Parti communiste, mais également des socialistes, que ça ne gêne évidemment pas. Le fait que Romain Rolland soit quand même l'une des vedettes du 14 juillet 1936 avec la reprise d'une de ses pièces de théâtre qui se situe à l'époque de la Révolution française, le 14 juillet de Romain Rolland, les références innombrables à toute cette sorte de saga du progrès social, ça se retrouve effectivement dans les spectacles du Front populaire, dans certaines iconographies et dans la volonté, en particulier du Parti communiste qui devient à ce moment-là le grand parti de réintégration du patrimoine, une sorte de main tendue non seulement à la droite, à la limite patriote par le Parti communiste, même au croix de feu, c'est quand même incroyable. Au moment du congrès du Parti communiste à Arles, il y a clairement référence incessante, même au Félibrige, quand on pense au lien du Félibrige avec l'Action française, ça laisse rêveur. Et Jean Bruat, grand historien, par ailleurs membre très actif du Parti communiste, monte à la tribune et chante la continuité entre les combats passés, Jeanne d'Arc redevient une héroïne populaire au sein du Parti communiste, et on n'est pas loin des Aliscans, et bien Jean Bruat dit que les défenseurs aujourd'hui des Aliscans, ce sont les communistes. Ça laisse ébahi une sorte d'extrême gauche. On imagine que les anarchistes, même ceux qu'on va appeler les trotskistes, descendent du train à ce moment-là. Mais au fond, le Parti communiste, Paul Vaillant-Couturier en est un très bel exemple, le patron à l'époque du journal L'Humanité, se retrouve tout à fait dans cette réintégration patrimoniale.
Alors, d'abord, une chose importante à rappeler, c'est que le Front populaire s'inscrit lui-même dans l'histoire.
Frédéric Cépède, historien et journaliste à l'Office universitaire de recherche socialiste.
En 1935, par exemple, le 14 juillet 1935, au moment où est signé le programme de rassemblement populaire, c'est Place de la Bastille, tout ce qui rappelle la Révolution française et le rôle de la gauche dans cette grande aventure du peuple français, mobilise le peuple de gauche. Et donc le Front populaire s'inscrit dès le soir des résultats des élections dans une perspective historique. Effectivement, il est un événement d'histoire, puisque c'est la première fois qu'une gauche rassemblée, divisée depuis le congrès de Tours, arrive au pouvoir, et surtout c'est la première fois qu'un socialiste, parce que c'est pas la première fois que la gauche exerce le pouvoir, le Parti radical l'avait exercé bien avant, c'est la première fois qu'un socialiste devenait président du Conseil.
En 1946, on est dans une situation de tripartisme. À sortir de cette guerre en pleine reconstruction aussi, hein, faut bien le dire, qu'est-ce qu'on peut commémorer de ce Front populaire, Pascal Horry ?
Paradoxalement, le premier dixième anniversaire est peut-être le moins visible, parce que la France, j'allais dire, a d'autres priorités, elle a presque la tête ailleurs. Et puis entre la forte présence du général de Gaulle, qui est dans une toute autre tradition, le fait que le Parti communiste est désormais hégémonique à gauche, ce n'est plus le cas des radicaux évidemment, mais même non plus des socialistes, et les communistes, certes, peuvent avoir une volonté de se rattacher à la tradition du Front populaire, mais pour eux, le Front populaire a aussi échoué, et ils ne souhaitent pas qu'il y ait de nouveau un échec à la libération, bah, tout ça contribue à mettre quand même le Front populaire sous le boisseau.
En 1946, on est certes 10 ans après la victoire du Front populaire, après une victoire portée par une union de la gauche, mais entre-temps, bien évidemment, il y a eu la guerre. Et le gouvernement de Vichy est revenu sur tout ce qui avait été les grandes avancées sociales de 1936. Donc, commémorer en 1946 le Front populaire, c'est cette mémoire compliquée à la fois d'une réussite et d'un échec. Une réussite parce que la vie va changer pour beaucoup de Français. Et c'est ce que revendique très fortement Léon Blum au moment du procès de Rion, où, alors que Vichy essaye de l'attaquer en disant que le Front populaire a mené à la guerre, a empêché le réarmement, a démobilisé les Français dans la production, donc il est le responsable de la situation et de l'effondrement de la France en 1940, Léon Blum va revendiquer hautement et fortement toutes ces avancées et cette embellie. Ces Français qui sont sur leur tandem et qui partent à la plage, ce moment où les loisirs et le travail ne bornent plus simplement l'horizon des Français, c'est ce changement de la société française que Léon Blum revendique hautement et fortement. Et donc le gouvernement, certes De Gaulle est à sa tête, mais le programme du CNR a été très inspiré par les idées de gauche et des socialistes, et le gouvernement ne remet pas en cause les acquis du Front populaire, c'est-à-dire que les congés payés, les 40 heures, tout ce qui avait été la législation sociale, la sécurité sociale en plus, va conforter ce qui avait été les avancées de 1936. Donc sur ce terrain du gouvernement de la libération qui poursuit les avancées du Front populaire, oui, là il y a une dynamique qui est mise en place en cette période. La difficulté de 1946, c'est que le Parti communiste n'avait pas participé en 1936. Là, il participe au gouvernement. Et à partir de 1946, se met en place ce qui va courir sur toute la période suivante, c'est cette revendication par les socialistes du rôle de leur leader, Léon Blum, donc qui s'impose comme la grande figure de 1936. Et pour les communistes et d'autres gauches plus critiques des socialistes, c'est le mouvement social qui, lui, a imposé d'une certaine façon aux politiques de faire changer la législation.
Chapelle ardente avec le ciel pour voûte, des lampadaires éteints, des lampadaires noirs, un peu de vent qui souffle comme un orgue en sourdine, et dans le lointain, la musique de la garde républicaine. au moment où je vous parle, des chars chargés de fleurs débouchent de la rue Royale et pénètrent sur la place de la Concorde.
2 avril 1950.
Devant l'obélisque, une estrade très simple. 16 mètres de long, 8 mètres de large, surmontée d'un catafalque aux trois couleurs. Dans un instant, le cercueil sera dans ce catafalque, dans l'axe carrousel, arc de triomphe. Sur la gauche, la Seine, ce fleuve que Léon Blum a tant aimé, qui coulait au pied de sa maison dans l'île Saint-Louis, et le palais de l'Assemblée, qui avec le populaire fit presque toute sa vie. Les drapeaux officiels flottent, sur le palais Bourbon, sur le ministère de la Marine, dans la rue Cambon. Ils ne sont pas à la taille de ce décor, de ce dimanche, ni de cette mort. Et ils paraissaient franchement petits sur cette foule qui débouche, et dont le flot tranquille s'apprête à submerger la place aux barrières blanches.
Le parti et lui ne faisaient qu'un. Ou pour mieux dire, Léon Blum ne faisait qu'un avec son parti.
Guy Mollet, 2 avril 1950.
Non pas, certes, qu'il ait jamais cherché à imposer sa conception autrement que par la puissance convaincante de son argumentation. Et à ceux qui, déjà en 1920, lors du congrès de la scission, l'accusaient de vouloir être un chef, il répondait lui-même: je ne sais pas si je suis un chef ou si je ne suis pas un chef dans le Parti Socialiste. Je ne m'en rends nullement compte. Je sais que j'y occupe un poste qui comporte une responsabilité. Je n'essaierai donc pas, moi, dis-je, de retracer toute l'œuvre de Léon Blum. Je ne rappellerai pas tout ce que son action a apporté à la classe ouvrière ou son enseignement à l'ensemble des hommes libres. Je me bornerai à chercher ce qu'il a voulu être pour notre parti, ce qu'il a voulu apporter à son parti, et montrer comment il y a merveilleusement réussi.
En 1956, quand Guy Mollet devient président du Conseil, il n'a de cesse de inscrire son action à la tête du Front républicain dans le sillage de Léon Blum. On est 20 ans après le Front populaire et toute la communication de Guy Mollet, ça va être de dire 20 ans après, avec Léon Blum, vous avez eu les 2 semaines de congés payés, avec Guy Mollet, vous avez la troisième. Et toute la politique sociale du gouvernement de Front républicain, dont le nom, là aussi, fait écho à Front populaire, même si là, c'est pas à l'initiative, il n'y avait pas les socialistes, il y avait plutôt les radicaux mindésistes, mais ce gouvernement qui est encore soutenu par les communistes s'inscrit bien évidemment dans une filiation du Front populaire. Alors, en 1956, là aussi, le gouvernement va... Enfin, pas le gouvernement, le président du Conseil va célébrer Jean Jaurès, va célébrer l'histoire de la gauche, mais le contexte, la guerre d'Algérie, va aussi venir perturber énormément tout ce qui était commémoration du Front populaire.
C'est plutôt dans les années 50 qu'on voit de façon assez timide cette question réévoquée, mais d'ailleurs significativement, elle est réévoquée de manière critique. Je pense à deux textes, en 1955, Léon Blum ou la politique du juste de Colette Audry, ou clairement Colette Audry, qui est publiée à ce moment-là dans une collection qui s'appelle Les Temps modernes, dirigée par Jean-Paul Sartre, développe une vision quand même extrêmement critique de l'œuvre de Léon Blum, qui est effectivement un juste avec un J majuscule, de ces justes, pour reprendre les phrases connues de Peggy et de quelques autres, qui ont les mains purs, mais qui n'ont pas de main. Bon, ça, c'est la position de Colette Audry en 55. On peut penser qu'elle a quand même évolué ensuite. Et de la même façon, 8 ans plus tard, Daniel Guérin, qui a été un militant, disons, du Front populaire, en tous les cas, compagnon de route du Front populaire, mais toujours sur des positions qu'on pourrait qualifier d'extrême-gauche, entre socialisme libertaire, syndicalisme révolutionnaire, trotskisme ou anarchisme, eh bien, Daniel Guérin publie un texte qui, malgré un point d'interrogation, dit « Front populaire, révolution manquée ». C'est-à-dire qu'il reprend la problématique de Marceau-Pivert. Nous aurions raté en 1936 une occasion, et en particulier la conjonction entre les conservateurs, entre guillemets, les radicaux, par exemple, et puis le Parti communiste, stalinien, aurait empêché la révolution d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est la position de Guérin. Donc, d'une certaine façon, c'est encore l'idéologie qui domine, et il faut attendre le milieu des années 60 pour que, à travers en particulier le colloque de 1965 de Sciences Po, de la Fondation nationale des sciences politiques, sur Léon Blum, chef de gouvernement, là, on peut dire qu'il y a mise en branle d'un travail historiographique qui avait d'ailleurs été préparé par les deux piliers de Sciences Po aux années 60, le secrétaire général de la Fondation Jean Touchard, et puis le jeune éditeur extrêmement brillant, grand historien des intellectuels, Louis Baudin, qui avait publié en 61 une sorte d'anthologie de textes de la presse de l'époque sur le Front Populaire. Donc on sent bien que dans les années 60, les historiens peuvent se saisir de cet objet, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça ne soit pas croisé avec des préoccupations idéologiques.
Léon Blum entre dans l'histoire. Une émission de Louis Baudin, présenté par France Culture et réalisé par Paul Ventre.
22 avril 1950.
Aujourd'hui, Léon Blum, chef de gouvernement. Avec la voix de Léon Blum et la participation de Georges Dupeux et René Raymond.
Lorsqu'il accède par trois fois à la tête du gouvernement, en juin 1936, en mars 1938, et en décembre 1946, Léon Blum se trouve dans des situations qui ont pour caractéristique commune d'être exceptionnelles. Certains ont dit, ont écrit, en mai 1936, à l'époque où Blum se préparait à prendre le pouvoir et où commençaient les grèves avec occupation d'usines, que tout était possible. Léon Blum estimait lui-même qu'il n'y avait pas de majorité révolutionnaire et qu'il ne pouvait pas se situer dans un autre cadre que celui de l'occupation et de l'exercice du pouvoir. Est-ce que vous donnez raison à Blum pour son analyse de la situation ?
Les années 60, ce sont peut-être les années où les universitaires, les historiens prennent en tout cas le Front Populaire comme objet d'histoire de manière scientifique, même si effectivement les vétérans ou d'anciens militants eux aussi continuent de publier par exemple des mémoires ou des récits de cette période-là. Et notamment donc il y a un grand colloque donc en 65. Et là aussi il faut aussi préciser le contexte.
Mais oui, comme à chaque fois. En 1965, c'est la première élection du président de la République au suffrage universel et il y a un candidat unique de la gauche. Donc la gauche s'est rassemblée sur la candidature de François Mitterrand. Et l'anniversaire du Front Populaire en 66 se situe dans un contexte où la gauche... Alors la gauche socialiste est très divisée depuis 1958. Il y a eu une scission en 58. Le Parti communiste, on est dans une période de déstalinisation. Il y a eu le 20e congrès. Donc il y a un rassemblement qui se fait de la gauche et le Front Populaire peut servir de grand moment pour inscrire dans une dynamique ce regroupement de la gauche. Mais c'est encore timide. Et effectivement, la réflexion sur le Front Populaire se fait maintenant par le monde universitaire. Et notamment autour d'une association qui a été créée au moment de la mort de Léon Blum, qui est la Société des Amis de Léon Blum, qui va être partie prenante dans l'organisation de ce colloque à la Fondation Nationale des Sciences Po. Donc c'est la recherche historique qui se saisit de ce grand moment d'histoire.
D'une certaine façon, dans les années 60, quand la machine historiographique se met en branle et produit des objets intéressants, dont ce colloque, dont il faut préciser aussi que c'est un colloque prototype.
Pascal Horry.
C'est le premier de la série d'une demi-douzaine de colloques que Sciences Po, la Fondation Nationale des Sciences Politiques exactement, va organiser, qui confronte, grâce à une proximité relative sur le plan chronologique, les derniers témoins et les premiers historiens. On va refaire en quelque sorte le même coup 10 ans plus tard à Daladier, ce qui permet parler du Front Populaire, de la chute du Front Populaire dans ce colloque sur Édouard Daladier, chef de gouvernement. C'est calqué sur le titre 10 ans plus tôt de Léon Blum, chef de gouvernement. Enfin, toujours est-il qu'à ce moment-là, on peut dire que on commence à travailler sur le terrain et qu'il se fait une sorte de répartition des tâches qui va aboutir dans les années 70 à cette relative spécialisation qui fait que l'histoire culturelle, l'histoire des politiques économiques et sociales, l'histoire même des relations internationales va s'emparer de l'objet Front Populaire.
Jean-Pierre Rioux, historien, spécialiste d'histoire contemporaine.
Moi, j'ai étudié effectivement les révolutionnaires du Front Populaire en 1973. J'ai fait une assez grosse anthologie de tout cela. Bon.
Après 68, d'ailleurs.
Alors, j'y viens, ce n'est pas un hasard. Et donc, Il y a une petite minorité active, celle de la tendance de Marceau Pivert, au sein de la SFIO, qui ne rêve que de révolution continuée, de pacifisme à tout craint, hein, y compris face à Hitler. Enfin, bon. Ces révolutionnaires-là, qu'ils aient été des anards de vieille époque, qu'ils aient été des syndicalistes révolutionnaires, il y avait quelques noyaux, des poignées de militants trotskistes très actifs, hein, qui
anti-staliniens,
réconfortés parce que le vieux exilé avait fait quelques passages en France, à Grenoble ou en région parisienne, ou à Paris même. Donc, il y a des minorités. Et alors, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le fait qu'il y avait eu tentative d'État, disons, tentative politique, à travers, je dirais, l'action législative du gouvernement Blum et des gouvernements suivants, n'est-ce pas, jusqu'à la guerre, ceux de Chautemps et de Daladier, il y avait eu l'idée que le conflit social, il faut bien qu'on arrive à l'arbitrer, hein, il faut bien qu'on arrive non pas à le domestiquer, mais à créer à travers lui et à imposer à travers lui la notion de partenaire social. Et ça, c'est le fait qu'un jour, en juin 1936, à l'hôtel Matignon, on a rassemblé, sous l'autorité du gouvernement, sous l'autorité de Blum, des patrons et des syndicalistes. Alors, en ce sens, c'est ça qui m'a intéressé. Et pourquoi ça m'a intéressé ? Donc, j'achève ma réponse. Parce que c'était au lendemain et au fort du choc de mai 68. Voilà. Inutile de dire qu'à travers mai 68, des jeunes historiens comme je l'étais à l'époque ont pu lire tout ça. Hein. Comment il y a ressurgissent des aspirations révolutionnaires, vocabulaire et gestion groupusculaire des choses comprises. À l'époque, moi, j'étais assistant et maître assistant à Paris-Lys-Nanterre, n'est-ce pas ? Donc, j'ai vu qu'est-ce que c'était, comment faire pour imposer ce que disait mon maître et ami René Raymond, imposer la règle et le consentement à travers un mouvement social ou un mouvement étudiant ou un mouvement, etc., comme celui de mai 68.
Je pense qu'un livre comme celui de Jean-Pierre Rioux sur Révolutionnaire du Front Populaire, qui sort, je crois, en 1973, montre bien l'écho de 68, ou en tous les cas de la signification qu'on voulait donner à l'époque à 68, sur l'historiographie en général. On s'intéresse beaucoup à l'utopie, à ce moment-là, on s'intéresse beaucoup de nouveau à Daniel Guérin, etc. Et en particulier appliqué au Front Populaire. Mais ce qui me frappe quand même un peu plus, c'est que on voit revenir au devant de la scène la perspective biographique que l'école des annales avait, c'est vrai, fortement critiquée, et appliquée au Front Populaire. Ça se traduit par une série qu'on peut considérer comme inaugurée par Jean Lacouture, de biographies de Léon Blum, et ensuite d'un certain nombre de personnages emblématiques de cette époque. Et je pense que c'était assez indispensable, puisque d'une certaine façon, on sortait aussi, c'est un des effets de l'ambiance 68, de l'hégémonie de référence du Parti communiste. Donc des personnalités comme le radical Jean Zay, le social-démocrate, le socialiste Léon Blum, etc., étaient quand même un peu sous le boisseau. Alors certes, leurs fidèles étaient toujours là, Jules Moc, l'association que j'ai présidée à un certain moment, des amis de Léon Blum pouvaient faire un travail, mais le grand public ne s'en préoccupait pas. À partir de Jean Lacouture, par exemple, on peut dire que Léon Blum devient un héros de notre temps.
Il y a 25 ans, Léon Blum mourait.
13 avril 1975.
Cet anniversaire a été célébré à Lille par la Fédération du Nord du Parti Socialiste en présence de Robert Blum, le fils de Léon Blum. François Mitterrand a pris la parole. Pour lui, les options économiques et sociales du père du Front Populaire sont toujours valables aujourd'hui.
À travers certains choix du Parti Socialiste ou de ses prédécesseurs dans l'histoire, qui s'inspiraient de la même philosophie, le Léon Blum du Congrès de Tours en 1920, le Léon Blum du Front Populaire en 1936, le Léon Blum de la Résistance et du Témoignage, le Léon Blum des dernières années, représente une continuité de choix qui est la nature même du socialisme. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas de libération de l'homme qui ne commence par sa libération économique. Oui, il convient d'organiser la lutte des opprimés, la classe ouvrière, du monde des travailleurs contre ceux qui les exploitent. Oui, mais cela doit s'inspirer de valeurs permanentes. Sur ces valeurs, il convient d'être irréductible. Ces valeurs doivent être bien entendu définies. Elles s'appellent liberté, elles s'appellent égalité, justice. C'est très bien. Encore faut-il que cela ait une signification non tronquée, comme c'est le cas aujourd'hui dans la société à direction bourgeoise. Mais ces notions mêmes sont permanentes. Le socialisme sans elles n'est pas le socialisme. C'est ce message de Léon Blum qui continue, au fond, de donner au Parti socialiste actuel son originalité dans le kaléidoscope des pensées socialistes.
François Mitterrand, devenant le premier secrétaire du Parti socialiste en 1971, dans une tactique d'union de la gauche,
Frédéric Cépède.
Et pour y arriver, c'est la recherche d'un accord avec le Parti communiste et avec le Parti radical. Dans cette mise en marche du Parti socialiste, la réactivation de tout ce qui peut être dans une dynamique d'union et dans une dynamique de réussite et de mobilisation du peuple de gauche est activée. Les journalistes et les éditorialistes ont bien remarqué que, par exemple, François Mitterrand adoptait des postures de Léon Blum avec un chapeau à large bord. Donc, il y a... C'est pas anodin, c'est-à-dire que dans la symbolique qui marque le Parti socialiste, s'inscrire dans le sillage de Jean Jaurès et dans Léon Blum, c'est se revendiquer de cette histoire, c'est s'inscrire dans un temps long et mobiliser le peuple de gauche autour de grandes images fédératrices.
En 1976, le Parti socialiste veut retrouver une position de relative hégémonie intellectuelle face au Parti communiste qui l'éclipsait clairement dans les années 60. Et c'est en train de se faire, corrélativement d'ailleurs lié au déclin de la référence intellectuelle du Parti communiste. Il y a beaucoup d'historiens au sein du Parti socialiste. Certains viennent du Parti communiste, comme Jean Popren. D'autres sont sociodémocrates depuis longtemps. On ferait une longue liste des futurs ministres, députés, sénateurs. Philippe Machefer a été sénateur, Louis Maxando a été ministre, etc., qui étaient par ailleurs des historiens de formation. C'est quand même pas négligeable. Il y a une volonté des municipalités, qui sont très nombreuses après les élections municipales de 1977, à célébrer à leur niveau la manière dont, par exemple, le Front populaire ou d'autres événements identitaires de la gauche ont pu se dérouler à leur échelle. Il y a une volonté du Parti socialiste de relancer la revue socialiste, la nouvelle revue socialiste, comme on l'appelle à l'époque, la NRS, qui organise, j'en étais un des leviers à l'époque, des tables rondes avec des historiens. Je me rappelle que Madeleine Robériot, grande historienne, qui fut communiste, très jaurétienne, m'avait dit « Ah, Pascal, il faut que je vous aime beaucoup pour accepter de venir participer à une réunion sur les historiens, la gauche, le Front populaire, tout ce que vous voulez ». Donc on sentait bien un basculement, c'est-à-dire que le Parti socialiste reconquérait ou conquérait peu à peu une légitimité, en particulier sur le plan, sinon scientifique, parce que bien entendu, il pouvait y avoir une certaine ambiguïté à l'instrumentalisation de tout ça. En tous les cas, sur le plan intellectuel, ça s'est manifesté à l'occasion d'un colloque, ça s'est manifesté par la participation à des expositions. En 1976, on commence à se préoccuper de cette dimension un peu scénographique. J'avais eu l'occasion aussi, en 76, de participer à quelques expositions mettant en lumière la photographie, l'affiche, le dessin, la caricature, ce qui était une perspective nouvelle, et le mouvement s'est plutôt amplifié par ailleurs.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour. Mon cœur m'a chaviré, chancelle, c'est l'amour.
C'est l'amour
qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour.
C'est l'amour.
Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie.
Les socialistes ont cette particularité quand même de n'avoir jamais écrit une histoire officielle de leur parti. Il y a des historiens à l'intérieur du mouvement socialiste, mais il n'y a pas une cellule qui fabrique l'histoire du parti. Sauf peut-être juste après le congrès d'Épinay, où l'ambition, c'est moins une ambition que le... Le souci, c'est de vraiment de marquer la rupture avec la SFIO, qui est coupable toutes les trahisons selon une partie de la gauche.
Ça, c'est différent. Idées. Il faut faire table rase.
Il faut faire table rase de tout. C'est-à-dire qu'il faut choisir dans l'histoire les grandes figures. Donc, c'est Jean Jaurès, c'est Léon Blum, c'est le Front populaire dans ses avancées sociales, mais on est beaucoup plus critique sur la guerre d'Espagne et sur Munich, par exemple. C'est une lecture où on va opposer les jaurésiens aux guédistes, où on va opposer les blumistes aux molettistes. Comme ça, on va tracer une filiation entre François Mitterrand et le nouveau parti dans une vision qui s'inscrit dans un continuum historique qui a pris les leçons des échecs. Donc il y a eu une petite tentative au cours des années 70 parce qu'il fallait faire redémarrer le parti et essayer et donner aux militants une histoire, mais là aussi une histoire qui est vraiment très critique. C'est assez rare qu'une organisation politique charge autant de fautes son histoire. C'est-à-dire que ça soit sur la participation à l'Union sacrée, que ça soit sur la guerre d'Espagne, que ça soit sur la résistance, dont on minore son rôle, alors que les historiens vont, eux, montrer que les socialistes étaient beaucoup plus présents et beaucoup moins écrasés que l'ont tenté de l'expliquer les mémoires de la résistance gaulliste et communiste. Mais il y a un rapport des socialistes à leur histoire qui est toujours d'insister sur ce qui a posé problèmes et rarement de mettre en avant ce qui est positif, comme si le fait de battre sa coulpe sur sa propre histoire était le garant qu'on ne recommettrait pas les mêmes erreurs. Mais bon, là, je dirais, c'est toute d'une certaine façon le charme des socialistes, c'est d'apprendre leur histoire ensuite par les historiens. Mais leur organisation politique, elle n'est pas porteuse à l'inverse du Parti communiste, qui lui écrit des histoires pour servir son combat et qui est livré à ses militants dans une version qui est beaucoup plus... où le débat interne n'existe pas.
François Mitterrand quitte l'hôtel de ville et remonte alors le boulevard Saint-Michel en voiture sous les vivas de la foule.
21 mai 1981.
Il tourne rue Soufflot et descend. François Mitterrand se dégage de la foule, deux roses à la main, il pénètre seul à l'intérieur du Panthéon. L'orchestre de Paris joue maintenant l'hymne à la joie. Le président de la République va se recueillir devant les tombeaux de Jean Jaurès et du résistant Jean Moulin.
Au mois de mai 1981, vous avez d'un côté François Mitterrand qui va au Panthéon rendre hommage à Jean Jaurès, à Jean Moulin, à Schœlcher, à des grandes figures, mais la figure socialiste, c'est Jean Jaurès, et Pierre Mauroy qui, au même moment, va à Jouy-en-Josas rencontrer la veuve de Léon Blum, qui est encore vivante. Et Pierre Mauroy va s'installer dans le bureau occupé par Léon Blum à Matignon. Donc la symbolique, elle est là. Le temps libre, la cinquième semaine de congé payé. Pierre Mauroy s'est toujours inscrit dans un sillage de Léon Blum, même si quand il crée une fondation, il crée une fondation Jean Jaurès.
Clairement, la victoire de 81 amène les professions culturelles, c'est le moment où Jack Lang devient le ministre que l'on sait, à s'interroger sur d'autres moments de lune de miel entre ces professions et la gauche, et le Front populaire en fait partie. Donc je sais que j'avais été à l'époque très sollicité dès le Festival d'Avignon de 81 par des directeurs de maisons de la culture, par exemple, qui me disaient « mais on va organiser une exposition ». Ça devenait presque une manie. Et donc on sentait bien un mouvement qui a plutôt été prolongé par le fait que, n'oublions jamais, le budget de la culture, enfin du ministère de la culture, sans parler des grands travaux, en plus, a été multiplié par deux en une seule loi de finances entre 81 et 82. Donc le Front populaire pouvait servir d'accroche, ça s'est confirmé aussi en 86. Incontestablement, c'est un moment où il y a une fonction historiographique qui est remplie aussi par les artistes et par les institutions culturelles.
Et puis il y a un ministère du temps libre en 81 qui va durer deux ans, je crois. Donc, du coup, ça aussi, ça fait référence un peu au Front populaire.
Ce qui est frappant, c'est que le ministère du temps libre n'a pas été considéré à l'époque et n'est toujours pas considéré aujourd'hui comme une vraie réussite, alors que le ministère de la Culture a occupé toute la place. C'est quand même très intéressant parce que, au fond, Jean Zay, dans sa prison, entre 40 et 44, avait réfléchi à un ministère de la vie culturelle qui annonçait d'une certaine façon, d'abord le rapprochement entre éducation nationale et culture, qui était une vieille antienne, et d'autre part, effectivement, certaines des initiatives du ministère de Malraux et ensuite de Lang. Et clairement, on peut dire que la dimension scolaire est apparue comme moins prioritaire, tandis que du côté du ministère de la Culture, il y avait quand même un profond activisme qui se réclamait du Front Populaire, avec un vocabulaire peut-être plus moderne, développement culturel, action culturelle. Mais je rappelle qu'en 36, le mot culture est présent, la revendication d'un ministère de la Culture est présent, officiellement en 36. Donc tous ces acteurs culturels qui rêvaient du Front Populaire, qui contribuaient à entretenir son mythe, n'étaient pas tout à fait dans l'erreur non plus.
Les responsables du PS, eux, célébraient hier le Front Populaire. En train, ils portaient le numéro 36. Laurent Fabius, Lionel Jospin, Louis Mermaz et leurs amis se sont efforcés de ressusciter l'entrain de ceux qu'il y a 50 ans découvraient les congés payés. Olivier Lerner.
Antenne 2, 15 juin 1986.
Une chanson populaire de 1936, un banquier républicain, 50 ans après les départs des premiers congés payés, le PS est donc monté dans un train nommé 36, Paris-Saint-Lazare jusqu'aux plages du Calvados pour renouer avec la fameuse époque des conquêtes sociales du Front Populaire. Laurent Fabius, Olivier Stirn, Louis Mermaz, Lionel Jospin sont du voyage, en roue libre sur une vingtaine de kilomètres, un pique-nique dans le plus pur style des années 30, cette journée souvenir n'avait rien d'une visite dans un musée.
Je chante soir et matin, je chante.
Charles Trenet, Marie Dubas, Fréhel, Damien, Maurice Chevalier et derrière les drapeaux, la plage de Ouistreham. La prolongation de la scolarité à 14 ans, la semaine de 40 heures, les congés payés, juin et juillet 36 resteront gravés dans les mémoires. Léon Blum tentera de briser les divisions à gauche, il luttera contre la poussée du fascisme international, mais le Front Populaire sera anéanti par la Deuxième Guerre mondiale.
Le gouvernement de Léon Blum a duré un an. Ceux de François Mitterrand ont duré 5 ans et celui-ci, au bout de ces 5 ans, est toujours à la tête de la République.
En 95, à la présidentielle, Lionel Jospin arrive en tête des 3 candidats suivis par Jacques Chirac et par Balladur, mais pour la gauche, c'est une espèce de victoire d'une certaine façon, parce que ça montre qu'il y a quand même une audience dans le pays et que la droite n'a pas tous les pouvoirs. Et ça va donner une dynamique à une recomposition du Parti socialiste et de la gauche plurielle. Et en 1996, l'anniversaire du Front populaire se situe dans ce moment où la gauche se retrouve. Donc on aura des réactivations de manifestations. Mais là aussi, on ne fait pas de l'histoire. On cherche un nouveau rassemblement. Mais il y a le Front national. Il y a le Front National qui permet de réactiver, là aussi, la lutte antifasciste. 1934. Donc, on est, comme en politique, très souvent sur des lectures binaires. Il faut avoir un adversaire. Et le Front Populaire est réactivé dans cette dynamique qu'il a permis de créer pour combattre un adversaire.
Frédéric Seppel, au niveau des mesures qui marquent cet héritage, il ne faut pas oublier de parler, évidemment, des 35 heures, 97.
Oui, il ne faut pas oublier non plus que 97 est précédé par 95, un grand mouvement de grève en France. Et donc là aussi, la réactivation de l'importance du mouvement social dans l'histoire de la gauche pèse aussi. C'est-à-dire que le programme de Lionel Jospin en 1997, au moment de cette divine surprise de la dissolution de l'Assemblée par Jacques Chirac, qui va porter la gauche plurielle au pouvoir, parce que là aussi, c'est un gouvernement où vous aurez... des socialistes, des communistes, des radicaux, des écologistes. Donc là, on est dans une autre configuration de la gauche qui a changé depuis le Front Populaire. Les écologistes ne portent pas le même regard sur le Front Populaire que les communistes ou les socialistes. Donc là aussi, la réactivation des symboles est importante. Mais le choix des 35 heures s'inscrit bien évidemment dans une dynamique et dans une mémoire de la gauche qui relie le Front Populaire, et les écologistes partagent cette vision de l'histoire aussi, qui est du temps libéré, d'une autre façon d'organiser la vie des citoyens. Donc le 1936, je dirais, il est dans les esprits pour ces mesures sociales, pour ce bonheur, pour les loisirs, mais les configurations politiques ont complètement changé.
En tous les cas, Pascal Auris, ce qu'on voit, par exemple dans les reportages à la télévision, dans la presse, ou même dans les thèmes d'exposition, c'est vrai que ce thème des congés payés, du temps libre, ressurgit toujours. Alors, est-ce que c'est parce que c'est quelque chose, de toute façon, qui n'est pas contesté ni par la gauche, ni par la droite? C'est un acquis ou est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment consensuel pour qu'il puisse, comme ça, ressurgir systématiquement à tous les anniversaires du Front Populaire?
Quand Léon Blum, en pleine période de Vichy, au procès d'Orion, évoque l'embellie des congés payés, il ne sait pas si bien dire. Peu à peu, le mythe, et je rappelle qu'un mythe, ce n'est pas une illusion, un mythe, c'est une histoire qu'une communauté se raconte, et nous avons tous besoin, à toutes les époques, et nous aurons toujours besoin de mythes. Mais le mythe du Front populaire va de plus en plus, en quelque sorte, se réduire aux congés payés, les 40 heures, ou certes, mais ça devient un peu flou, les conventions collectives, ça devient un peu flou. On oublie d'ailleurs bien d'autres projets passionnants, comme l'idée d'arbitrage, les tribunaux d'arbitrage, de surarbitrage, et on se concentre sur les congés payés, qui, il faut le remarquer, sont une initiative de Léon Blum, épaulée par le mouvement syndical, mais c'est Léon Blum qui fait entrer les congés payés dans le programme du gouvernement du Front populaire, puisque ce n'était pas dans le programme officiel du Front, du Rassemblement populaire, comme on disait officiellement. D'autre part, sur la longue durée, on peut dire que la gauche a attaché aux congés payés une importance symbolique très forte. D'ailleurs, en 1956, c'est effectivement le gouvernement Mollet qui ajoute encore une semaine aux congés payés. Donc, il y a une logique derrière ça, en 81 aussi. C'est une sorte de traçabilité incontestable. Et puis, je pense que ça renvoie à une réalité qui est que ce qu'on appellerait aujourd'hui les réformes sociétales paraissent les réformes durables, celles qui touchent en profondeur à la conception qu'on se fait de l'homme en société, quoi.
J'ai l'impression que dans les années 1980-90, on est sur une relecture par les photos des mouvements de grève, d'un mouvement social. Et puis que depuis une dizaine d'années, on est dans une relecture de la société. Et que les photographies des bords de plage, les photographies de ce moment où le corps exulte, où dans la nature on voit les sportifs monter des pyramides, ou sur les plages, c'est la même chose. C'est une espèce de relecture de la société de 36 qui nous est présentée moins par le mouvement social et par les luttes que par une nouvelle façon de vivre le bonheur. Alors c'est en corrélation sans doute avec les travaux de Pascal Horry sur la politique culturelle du Front populaire et les dernières expositions. Alors oui, on retrouve tous les gestes symboliques, du poing levé, des drapeaux rouges, mais là aussi, ce sur quoi on insiste et ce que donne à voir plein de nouvelles images, c'est la liberté, on est dans les champs, c'est plus le monde du travail.
Moi, mon interprétation,
Jean-Pierre Rioux,
c'est qu'il y a quelque chose d'explosif dans mai-juin 36, comme il y a eu dans mai-juin 1968. Bon. Et c'est quand même une interrogation si troublante qu'on ne peut jamais la commémorer. Alors, on peut formuler ça ainsi, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que, en 36, le fait que ce peuple qui est chroniquement divisé, très bien, est soumis à la crise, et ça n'est pas rien la crise des années 30, hein, a déjà un chômage assez massif, c'est le temps quand même où des chômeurs se mettent en marche. Ils partent du Nord, ils arrivent à Paris, les gars sous la pluie, et c'est tout ce qu'on veut. C'est un moment de désarroi des classes moyennes qui sont assez matraquées par la crise économique, la crise politique et tout ce que l'on veut. C'est un temps, on l'a dit, c'est un temps où les extrémismes politiques, ça n'est pas rien. Ligue d'extrême droite, petite minorité à l'extrême gauche qu'il s'agit. Ce peuple qui est promis à toutes les divisions, brusquement, un certain nombre d'entre eux, dont on voit bien qu'ils portent culturellement un espoir, à travers la grève, à travers les suites de grèves, bon, à travers aussi la vie de quartier, à travers la progression en flèche des séances du ciné du samedi soir, à travers plein d'autres choses, à travers la chanson, etc. Brusquement, il y a une réponse, beaucoup plus individualiste qu'on croit. Ces gens ont eu envie de kermesse, ont eu envie de grand large, ont eu envie de rapports nouveaux au boulot et au mieux-être, et au loisir. Dieu sait qu'on a chanté ça à l'occasion du Front populaire. Non pas pour changer la vie, mais pour aller un peu mieux au-devant d'elle. C'est tout simple, tout ça. Et ma génération a compris tout ça tout de suite, tout gosse. Il s'était passé en 36, vous voyez, j'en pleure presque aujourd'hui encore, il s'était passé en 36 quelque chose, les gens avaient posé le sac, avaient posé le fardeau, pour dire, écoutez, nous, on ne demande pas grand-chose, on ne veut peut-être pas la révolution, on ne veut pas nécessairement apeurer le bourgeois, le patronat, on veut prendre le temps de respirer mieux et sans être trop bronchitique. Voilà. Et là, moi, je lis ça dans un texte que j'aime beaucoup d'André Malraux. Malraux a fait un carnet du Front populaire, qui était un inédit, qui a été réédité très récemment. Et alors, il dit ça, comme l'avait dit Simone Veil, d'ailleurs, avant. Il dit ceci, alors, joie d'être autonome. Moi, individu. Et individu qui pourrait peut-être même me syndiquer, finalement. Joie d'être autonome, joie d'être libre, et par le fait, je cite, de n'avoir pas aujourd'hui à obéir, virgule, joie de se sentir soudain un autre. Voilà la formule qui est si dangereuse à célébrer, évidemment. Joie d'être désormais un autre. Alors ça, ni le politique, bien sûr, ni toutes les formes de pouvoir, d'État, patronal, tout ce que l'on veut, ou même syndical, bien entendu, ne voit pas comment commémorer ça, parce que c'est une inspiration collective, bien sûr, mais qui saisit les individus un à un.
Merci à Frédéric Sépède, Pascal Horry et Jean-Pierre Rioux. Merci également à Daniel Tartakovsky. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, Anthony Thomasson. Mixage, Julien Douminc. Les Fronts populaires des socialistes. Un documentaire de Séverine Liattard et Séverine Cassard.
Demain, nous continuons notre semaine consacrée à l'histoire et à la mémoire du Front populaire avec une balade radiophonique de Séverine Liattard et Séverine Cassard en compagnie du commissaire d'une exposition à Montreuil au musée de l'histoire vivante. Il s'appelle Éric Lafont et il nous présentera la façon dont le Front populaire a traduit en images son action. C'est l'histoire de cette balade radiophonique que nous vous proposons demain dans la Fabrique de l'Histoire.